la conscience qu'il faut trouver des solutions appropriées.
Alors, Célestin...
Donc, moi, je viens d'un petit pays. Alors, le Burundi, ça fait 25 000 km carrés. Nous avons plus de 12 millions...
On reviendra sur le cas du Burundi tout à l'heure sur lequel vous avez écrit tout un article, vous avez consacré un article dessus. Célestin Bédig, cette déclaration des parlementaires de la CEDEAO, elle tombe après celle d'Emmanuel Macron, le président français, lors du G20. Est-ce qu'il y a une concordance au niveau des calendriers?
Oui, mais il faut dire d'entrée de jeu ici que cette déclaration peut être justifiée d'une part par une logique économique et d'autre part par un impératif de responsabilité sociale. Parlant de la logique économique, il y a une notion très importante utilisée ces derniers temps, à la fois par les démographes et les économistes, qui est la notion de la transition démographique. La transition démographique, c'est le seuil qu'atteint un pays lorsque le taux d'accroissement de la production de sa richesse est supérieur au taux d'accroissement de la population. Mais il se fait que, on l'observe, dans la plupart des pays africains, ce seuil est loin d'être atteint, mais bien au contraire, on semble noter une dégradation du différentiel entre la production de la richesse et l'accroissement de la population, ce qui fait que le taux, on pourrait dire, le taux de croissance du PIB, donc le taux de développement du pays, on n'a pas tendance à s'améliorer. Alors, d'un autre côté, il y a cet impératif des responsabilités sociales. Je crois qu'il est quand même temps que les gens prennent compte de ce que faire des enfants, c'est une bonne chose, mais faire des enfants dont on a les ressources minimales pour s'en occuper est bien meilleur.
Alors, on reviendra sur cette partie-là en deuxième partie d'émission, mais j'aimerais qu'on soit vraiment sur l'aspect politique de ces déclarations des parlementaires. On va prendre la direction de N'Djamena avec vous, Mabengom. Justement, est-ce que les différents pays d'Afrique de l'Ouest peuvent légiférer? Est-ce qu'ils ont les moyens aujourd'hui de mettre une telle politique, une telle déclaration des parlementaires en place?
Oui, non, je dirais que il y a un environnement politique favorable, parce que il vous souviendra qu'en janvier 2016, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine avait décidé de faire de 2017 l'année pour lancer la capture du vidange démographique. Et en janvier 2017, la feuille de route a été officiellement lancée, il y a de cela quelques semaines. À Addis Abeba, il y a eu un débat général sur la question. Donc je crois que pour une fois, nous avons un environnement politique, un engagement politique assez fort, et la plupart des pays sont d'ailleurs aujourd'hui dotés d'un profil de dividendes démographiques grâce au partenariat qu'ils entretiennent avec le Fonds des Nations Unies pour la population. Donc je peux dire aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique est bien positionnée pour aller vers la capture du dividende démographique. Je me permets un peu de revenir sur les propos du président Macron. Je pense qu'il a parfaitement raison. Et d'ailleurs, il n'a fait que dire ce que les chefs d'État africains eux-mêmes disent et ce que nous disons, ce que j'ai dit ici à N'Djamena. Il y a de cela moins d'un mois, devant le président de l'Union africaine et le président Idriss Déby et le vice-président de la Guinée équatoriale, et ce qui était vraiment la substance des interventions des différents chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine lors du débat il y a de cela quelques semaines à Addis Abeba.
Donc tout le monde s'accorde à dire qu'il faut qu'il y ait une vraie réflexion et du moins, en tout cas, des actes politiques posés. Kadiatou Traoré, que pensez-vous de ces différentes initiatives, ces différentes déclarations et qui aujourd'hui semblent être proposées à la population et il va falloir débattre?
Moi je dirais que d'abord, c'est pas nouveau. Nous sommes sur cette lancée depuis plus de 20 ans parce que le directeur du FINIAP qui vient de relater un tout petit peu sur le programme de développement population et démographie l'a bien dit et les discussions continuent. Et il y a eu une conférence en septembre 1994 au Caire qui est organisée par les Nations Unies et qui on a appelé la conférence internationale sur le développement, la population et le développement, qui était vraiment axée pour la mise en œuvre et puis de définir des objectifs pour tous les pays, et à laquelle il y a eu 180 pays qui ont participé et qui ont ratifié les résolutions de cette conférence, et qui était quoi? C'était les objectifs, les différents objectifs, c'était de faire la limitation des naissances et puis de donner un capital vraiment de développement possible aux différents pays. Et si les pays ratifient, Tatiana, les conventions comme ça, ils sont obligés aussi de faire face. Mais depuis plus de 20 ans, nous sommes sur cette lancée. Je pense qu'il y a eu très peu de résultats parce qu'il n'y a pas eu de contrôle avec, quand on regarde quand même à la phase de l'immigration des Africains vers les pays européens, on se dit que, et puis il y a aussi la démographie qui galope dans certains pays.
Alors, on va justement donner la parole à notre autre invité, Prime Nyamoya. Comment est-ce que vous percevez la volonté politique qu'il y a derrière? Comment est-ce qu'on fait justement pour appliquer ce genre de politique?
Je me réjouis d'abord qu'il y ait une conscience déjà qu'il y a un problème. Il y a un problème démographique. Pendant longtemps, les hommes politiques en Afrique ont plus ou moins ignoré, en tout cas négligé, qu'il y avait un problème. On en parle, mais on ne fait rien pour trouver des solutions. Or, les solutions existent parce que aujourd'hui, comme on l'a dit en collègue tout à l'heure, il y a quand même un écart entre la production, surtout la production agricole en Afrique, et l'accroissement démographique. Et même aujourd'hui, on dit que l'ensemble des pays en Afrique ont connu ces dernières années une croissance économique positive, mais on oublie de dire que ceci est absolument noyauté quand il y a une croissance démographique élevée. Quand vous avez un taux de croissance de 6% et que vous avez entre 3 et 4% de croissance démographique, bien évidemment, l'évolution du PIB par tête d'habitant est très faible. D'ailleurs, la plupart des pays que nous connaissons ont un revenu inférieur à 1,25 $ selon les chiffres de la base.
Madame, messieurs, vous semblez tous d'accord sur le fait que ces déclarations justement de la CEDEAO semblent aller dans le bon sens. Par contre, nous, on a eu plusieurs réactions sur le site de VOA Afrique et plusieurs réactions de nos téléspectateurs. Par exemple, Wiyab Dipama aux États-Unis qui nous dit: le jour où nos dirigeants respecteront la limitation des mandats et les différentes lois et textes de leur pays, nous aussi, nous limiterons les naissances. Il y a aussi Dimitri Bongué en Côte d'Ivoire qui nous dit: aux hommes politiques, ne cachez pas vos échecs avec cette excuse de la démocratie. Et puis Catherine Conné au Mali qui dit: ce qui m'inquiète, c'est la parfaite concordance de cette décision avec les propos d'Emmanuel Macron. Ensuite, sur le fond, il est inexact que l'Afrique est le continent où la natalité est la plus galopante. Mouton Moutombo en RDC qui nous dit: la CEDEAO a totalement raison, les pays africains sont peuplés par des jeunes en majorité et ces jeunes n'ont pas de boulot, mais avec la diminution du taux de naissance, peut-être que les dirigeants arriveront à leur donner du travail. Et puis le dernier, Antares Videnan au Bénin qui nous dit: à long terme, il y aura une absence de main-d'œuvre qualifiée. On parlera alors de vieillissement de la population, ce qui peut entraver le développement du continent sur le plan économique. Messieurs, j'aimerais votre réaction par rapport à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous et avec ces déclarations de la CEDEAO qui pensent que ça s'aligne encore une fois sur une politique venant de la France, dont celle d'Emmanuel Macron. Je vais vous donner la parole, Célestin Bidziguet.
Oui, il faut bien reconnaître, Salva, qu'il y a une certaine sensibilité, je pourrais dire vraiment décorchée, que les Africains ont par rapport à toute critique qui leur est faite par les Occidentaux, et qui fait que le plus facile est de donner dans le mélange de genre. Hein. Ici, au Cameroun, il y a un buzz terrible qui a débouché sur des propos comme celui que vous venez de dire. Mais c'est vrai, les gens disent que on ne doit pas lui donner des leçons. De l'autre côté, la classe politique est responsable responsables se rendent bien compte que désormais, il faut prendre saisir ce problème à bras le corps. Il y a cet écart qui se crée de plus en plus entre la prise ou la prestation des problèmes des Africains par les Africains lorsque ces problèmes sont identifiés par un responsable occidental. Et c'est tout à fait regrettable.
Alors, on reviendra dans la deuxième partie de cette émission justement sur ces nombreuses réactions. Et puis, je vous demanderai, messieurs, de revenir bien évidemment sur les enjeux économiques et politiques. On va marquer tout de suite une courte pause. Restez avec nous.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet.
Jamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants.
Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. A tout de suite.
De retour dans ce Washington Forum consacré cette semaine à l'état des lieux de la justice, mais à l'état des lieux du continent africain avec cette histoire de fécondité. Donc on va aborder les enjeux économiques et sociaux. À l'horizon 2050, le continent sera en majorité composé de jeunes. Quel avenir pour eux? Comment les populations accueillent cette annonce des parlementaires ouest-africains? Des réactions à Niamey.
Et le fait de limiter les enfants en droit, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Si c'est le développement, ça ne peut pas empêcher le développement. J'ai lu quelque part un document, je ne sais plus c'est plus où, c'était plus quand. La CEDEAO comporte jusqu'à 16 pays. Et je crois qu'il y a 9 pays francophones. En tout, on fait 800 millions d'habitants à peu près. Dans les 800 millions d'habitants, le document disait que d'ici 2050, l'Afrique de l'Ouest serait partie à 1 milliard de personnes. Je ne vois pas le problème.
La majorité des pays africains, il n'y a pas une question de limitation des naissances. Par contre, d'ailleurs même, nous, chez nous en Afrique, avoir beaucoup d'enfants, c'est déjà un atout.
À ma connaissance, le Niger, c'est un pays islamique. Plus précisément, 99% sont des musulmans. Et puis, le prophète Mohammed, il nous a autorisé de marier et avoir d'enfants beaucoup pour que l'islam s'est retenti trop pour qu'on domine.
Moi, je pense qu'ils n'ont pas ce droit-là parce que, comme je le disais tantôt, c'est la volonté de Dieu. On ne peut pas, ils ne peuvent rien faire là-dessus, ils ne peuvent rien faire contre. Actuellement, j'ai 4 enfants et je prévois d'en avoir d'autres aussi. Donc, je ne sais pas si je peux vraiment obéir à la décision du gouvernement ou quoi que ce soit. Hein. Merci. Merci.
Alors, on l'a dit, hein, ce sont des déclarations qui font le buzz sur le continent. On va revenir avec vous, Monsieur Ngom. Comment, justement, alors l'ONU s'est a tiré la sonnette d'alarme par rapport à cette question de démographie. Comment est-ce que sur le terrain on fait pour pouvoir convaincre les populations que il en va de la stabilité économique, de la stabilité pour le développement, pour un développement viable? Comment est-ce qu'on fait?
Oui, mais écoutez, nous travaillons avec les pays en utilisant les données et les évidences donc de chaque pays pour en tout cas définir des profils de dividendes démographiques. Ce qui permet à chaque pays de voir un peu les conséquences et le potentiel donc, qu'il y a à travers la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques. Aujourd'hui, dans la sous-région, nous avons pratiquement 80% des pays de la sous-région qui sont dotés d'un profil de dividendes démographiques. Et je crois que nous avons des initiatives comme le Sahel, l'initiative du Sahel pour l'autonomisation des femmes et la capture du dividende démographique, un partenariat avec la Banque mondiale, 6 pays, que sont la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Tchad et la Mauritanie, qui fait un travail extraordinaire. Nous procédons à la mobilisation de tous les acteurs de la société, comme ce que nous faisons actuellement ici à N'Djamena, avec plus de 1000 leaders religieux en provenance de tous les coins du monde, qui ont pu démontrer ici à N'Djamena que l'islam est favorable à la planification familiale en tant que moyen pour l'espacement des naissances en vue de l'amélioration du bien-être
alors,
des couples et de la société.
Alors justement, le planning familial, ça semble être l'un des acteurs sur lesquels vont s'appuyer à la fois les politiques, les ONG et toutes les institutions qui vont accompagner ça. Kadiatou, comment on fait pour convaincre une femme que, on va parler concrètement, comment on fait pour convaincre une femme qu'elle n'aura que 3 enfants maximum ?
Tatiana, c'est très difficile, surtout quand il s'agit d'une femme africaine. Nous venons juste d'écouter la femme nigérienne qui dit qu'elle en a déjà 4 et qu'elle espère en avoir encore. Et est-ce qu'un gouvernement peut influencer sur elle pour ne plus faire d'enfants ? C'est ça, en fait, le point d'interrogation. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour arriver à faire cette limitation ? Parce que depuis plus de combien d'années maintenant, le FUNIAP est en train de travailler là-dessus. Il y a l'UNICEF qui en a travaillé, qui a fait beaucoup de choses là-dessus. Les programmes de développement étaient à peu près... dépendaient aussi l'aide au développement. Un moment avait dépendait de la limitation des naissances. Et si le pays arrivait à réussir à un certain niveau, à un certain pourcentage, et l'aide passait. Mais avec tout ça, nous nous retrouvons en face de la question maintenant.
Donc, c'est un peu le diable qui se mord la queue. Prime Nyamoya, est-ce que aujourd'hui s'attaquer à cette histoire de démographie, de fécondité, est-ce que c'est le meilleur moyen pour promouvoir un réel développement pour les différents pays ? Et on va prendre le cas du Burundi, par exemple.
À mon avis, c'est un des moyens, parce qu'il y a d'autres solutions. Mais en écoutant tout à l'heure cette femme nigérienne qui dit qu'elle pourrait en avoir 8 enfants, tout le problème de l'Afrique, justement, consiste à savoir si nous serons capables de nourrir une population de 2 milliards et demi d'habitants, alors que le taux de croissance de l'agriculture reste désespérément faible. Donc les conclusions de cette émission, pour moi, sont évidentes par elles-mêmes. L'Afrique subsaharienne est à la fois à la croisée des chemins, parce que les gouvernements auront de plus en plus de mal à nourrir, éduquer la prochaine génération de ses citoyens et gérer suffisamment, créer suffisamment d'emplois bien rémunérés. Des réformes urgentes et drastiques ne sont pas appliquées au cours des prochaines années. Ça, c'est mon opinion.
Alors, Monsieur Célestin Bidzig, justement, comment on fait pour trouver un équilibre entre à la fois cette volonté politique et puis cette réalité sociale qui est que le continent sera habité par une population de plus en plus jeune, il va falloir leur trouver une éducation, le travail. Comment est-ce qu'on fait ? Comment on s'y prend ?
À mon avis, il y a des mesures...
Monsieur Célestin Bidzigui ?
Oui, non, c'est ça le sens du livre. Maintenant, je dis, il y a deux volets, ou plutôt deux leviers sur lesquels il faut absolument s'appuyer. Le premier volet, c'est le plaidoyer sur la responsabilité sociale. Parce que lorsque j'écoute cette dame nigérienne, peut-être qu'il faut lui rappeler que le tout n'est pas de faire des enfants, mais il faut avoir la possibilité de leur offrir des conditions de vie et d'éducation décentes. Ça, c'est le premier aspect, et ça, c'est essentiel, renforcer le plaidoyer de la responsabilité sociale. Puis, il y a le second point, qui est évoqué par notre ami de N'Djamena, capter les dividendes démographiques. C'est bien beau, la notion des dividendes démographiques qui est aujourd'hui développée par les différents économistes, qui veut dire que c'est le seuil où la masse de la population en âge de travailler est formée et supérieure à la masse des improductifs, c'est-à-dire les jeunes et les retraités. Encore faut-il qu'il y ait un dispositif au niveau de l'élaboration des politiques économiques qui permette de valoriser ou de mettre au travail ces populations qui sont en âge de travailler. Or, l'une des plus grandes crises que nous avons sur le continent africain, c'est une certaine difficulté, une incapacité du gouvernement à élaborer des politiques économiques qui permettent une résorption, une utilisation à bon niveau de cette main-d'œuvre, donc de la valorisation de ces dividendes démographiques. Mais également, donc, il y a une nécessité de renforcement des capacités des gouvernements africains africains à pouvoir élaborer des politiques économiques génératrices d'emplois.
Mais on revient encore à cette question. Est-ce qu'au final, tout ça, c'est une volonté politique avant tout? Il y a des commentaires Facebook de nos téléspectateurs qui disent que ça dépend des leaders aussi. Si les leaders respectent les institutions, respectent les lois, en ce temps-là, ça peut entraîner toute la société vers une certaine stabilité. Est-ce que, monsieur Ngom, est-ce que vous pensez que ça passe aussi par là? C'est avant tout une volonté politique.
Oui, je crois que la volonté politique est un élément du puzzle. Je pense qu'il faut l'avouer. Et d'ailleurs, dans certains pays, nous avons en tout cas des progrès importants. Mais la volonté politique, elle n'est pas suffisante. Il faut aller bien au-delà de la volonté politique parce que, par exemple, la capture du dividende démographique va demander des investissements conséquents en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de création.
Qui est-ce qui va financer ça? Qui est-ce qui va financer ça aujourd'hui?
Oui. Oui, moi je dirais que ça doit être en tout cas un partenariat avec la communauté internationale parce qu'il va un peu de la sécurité, de la stabilité et de la paix à travers le monde. Les phénomènes que nous connaissons aujourd'hui dans le bassin du lac Tchad qu'on appelle Boko Haram, ce que nous connaissons dans le Sahel qu'on appelle le djihadisme et les autres constituent des conséquences de mauvaises politiques qui ont été menées dans le passé et mauvaises politiques dont les conséquences affectent l'humanité tout entière. Donc je crois qu'il faut maintenant qu'on aille vers une solidarité internationale, pas seulement pour régler les conséquences auxquelles nous faisons face aujourd'hui, mais pour nous attaquer au mal, à la racine, en travaillant plus, mieux sur les questions du croix démographique. Je vais dire deux choses et je vais m'arrêter. C'est donc ce croix démographique très fort qui absorbe tous les efforts en matière de développement économique et social. Et je pense qu'on ne peut pas créer autant d'écoles, en même temps autant d'hôpitaux, créer autant d'emplois pour ces cohortes de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. 22 millions de demandeurs d'emploi additionnels en Afrique, c'est visiblement pas soutenable. On m'a dit à Abidjan il y a de cela deux jours que dans une commune, il y a 300 naissances par semaine. 300 naissances, c'est l'équivalent de 6 classes de 50 élèves. Donc cette commune ne peut pas faire face à ce besoin d'une école additionnelle chaque jour. Et ensuite, la conséquence en termes de lits d'hôpitaux, la conséquence en termes d'emplois nouveaux, la conséquence en termes d'infrastructures est visiblement insoutenable.
Alors, Prime Nyamoya, justement, j'aimerais, vous qui êtes aussi à Abidjan et où vous avez aussi pu observer, du moins, le cas ivoirien et le comparer au cas du Burundi, par exemple, qu'est-ce qui vous marque? Qu'est-ce qui vous choque aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mettre certaines politiques en place?
Il faut, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, la volonté politique. S'il n'y a pas de volonté politique, rien ne peut se faire. Alors, vous parlez du Burundi, je comparais plutôt au cas du Burundi à celui du Rwanda, voisin. Même population, même superficie, etc. Le Rwanda a pris une politique proactive de planification des naissances. Elle vise justement, les autorités rwandaises visent l'objectif de 3 enfants par femme sur un horizon plus ou moins long. Alors qu'au Burundi, il n'y a absolument pas de politique. Nous continuons à voir, nous constatons qu'une femme burundaise porte entre 6 et 7 enfants. Légèrement moins que le Niger, mais quand même c'est du même ordre. Alors le problème, pour moi, réside d'abord à conscientiser.
Je vais vous demander d'aller rapidement parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission.
La conscientisation par cette déclaration.
Merci. Merci beaucoup, monsieur Nyamoya. Je suis désolée, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à nos invités et à vous pour votre fidélité. C'est mon dernier Washington Forum avec vous. Je vous souhaite une bonne continuation à tous nos affiliés. Restez fidèles à VOA Afrique. Et puis vous retrouverez Jacques Aristide et toute l'équipe de VOA Afrique. Très bientôt. Au revoir à tous.